おかしい、おかしい。ぷぅぷぅぷぅ。
Bonsoir mesdames et messieurs, c'est Vive la Presse de ce soir vous propose trois thèmes à savoir la mise en place des nouvelles provinces au centre des concertations entre les gouverneurs de province et le Premier ministre à la primature ici à Kinshasa. Ensuite, la situation sécuritaire et humanitaire reste préoccupante au nord Kivu après le lancement des opérations Rwenzori contre les rebelles ougandais de l'ADF Nalu dans les territoires de Beni. Enfin, le haut commissariat du HCR, Antoine Guterres, séjourne en République démocratique du Congo depuis mercredi dernier. Participe à ce débat trois confrères journalistes. Il s'agit d'Albert Omba, il est journaliste à Tropicana FM, c'est une radio qui est née depuis Kinshasa. Jean-Claude Dumoila, il est journaliste au journal Le Climat Tempéré, un prix hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Et Serge Sikouli, il est journaliste à la radio Moto de Butembo au Nord Kivu. Concertation entre le Premier ministre et le gouverneur sur la question de la décentralisation, situation sécuritaire préoccupante au Nord Kivu, ainsi que visite en République démocratique du Congo du haut-commissaire Antonio Guterres. Quels sont les thèmes retenus pour le débat de ce soir? Comment la presse chinoise a traité ces différents thèmes? Écoutons cette revue de presse que nous présente Samuel Katak.
Bonsoir. La rencontre des gouverneurs des provinces avec le Premier ministre Adolphe Muzito figure parmi les sujets qui ont occupé la une des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Découpage territorial, 4 provinces viables sur le 26, annonce le phare. Il s'agit de Kinshasa, du Katanga, du Bas-Congo et du Nord-Kivu. Selon ce journal, cette évaluation a porté sur les éléments juridiques, économico-financiers et administratifs pouvant permettre l'installation de nouvelles provinces. Nouvelles provinces, villes et communes, Adolphe Muzito consulte les gouverneurs qui font la prospérité. Ce journal estime qu'avec la tenue de cette réunion des gouverneurs de province, la fin de la confusion a sonné au sujet de la mise en place de nouvelles provinces. Autre sujet abordé cette semaine, c'est la situation sécuritaire et humanitaire au Nord Kivu. La tempête des tropiques annonce que l'opération Rwenzori visant à traquer les rebelles ougandais ADF Nalu fait plusieurs victimes parmi les civils. Pour la tempête des tropiques, l'autre face négative de cette opération Rwenzori est qu'elle aggrave la situation humanitaire à Beni car 36 000 personnes sont actuellement jetées dans la rue. Insécurité au Nord Kivu, pression sur le dernier verrou titre le potentiel qui estime qu'il n'y a pas une nuit ou une journée qui ne se passe sans que l'on signale des cas d'assassinat sur la partie nord de cette province. Terminons cette revue de la presse avec la visite en RDC du haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et de la directrice exécutive du programme alimentaire mondial. L'observateur signale que la visite en RDC d'Antonio Guterres du HCR et de Joseph Chera du PAM consiste à évaluer les projets conjoints entre les deux agences des Nations Unies qui sont en cours et au profit des déplacés et personnes vulnérables. Le quotidien L'Avenir signale que lors de son séjour congolais, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Antonio Guterres, a plaidé pour une mobilisation de l'aide en faveur des sinistrés de Dongo à l'Équateur.
Merci Samuel pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous avons Albert Omba, vous êtes journaliste à Tropicana FM, c'est une radio qui émet depuis tout ça. Et comment vous appréciez le travail de la presse chinoise de cette semaine?
Oui, il y a quand même toutes les actualités ont été traitées par les différents organes de presse. Sauf peut-être que les gens n'ont pas fait très attention à la suite qui a été donnée à l'accord des fonctionnaires qui ont signalé que le Premier ministre sur la fin de la grève. Et il y a eu contestation des autres fonctionnaires qui ont décidé de continuer de poursuivre la grève.
Jean-Claude Dumoila, vous êtes journaliste au journal Climat Tempéré, c'est un prix hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Comment vous commentez les travaux de la presse de cette semaine?
Exhaustif, il me paraît couvrir toute l'actualité, sauf peut-être qu'on n'a pas retenu sur le plan économique l'arrivée d'une forte délégation britannique qui a rendu visite au gouvernement congolais et sur la table de discussion s'est invité les problèmes de pétrole congolais.
Serge Sipoli, vous êtes journaliste à la radio Moto de Dikembo au Nord Kivu. Quelle est la qualité qui a dominé la province du Nord Kivu cette semaine?
En tout cas, c'est de ce côté qui domine le débat, c'est surtout cette insécurité qui est devenue généralisée ensuite à ces fameuses opérations Rwenzori qui ont lieu principalement autour du mont Rwenzori. Là, nous parlons donc pratiquement dans tout le territoire de Beni, car c'est une bonne partie du territoire de Beni qui a donc retenu donc cette attention. Et j'ai pu dire que c'est une bonne chose que de revenir sur cette actualité qui doit interpeller plus d'un, car il faut vous imaginer la situation humanitaire de ces personnes qui se sont pratiquement déplacées. Et les confrères qui ont parlé pratiquement d'environ 36 000 personnes, je peux dire que c'est d'ailleurs au-delà de cela. La situation humanitaire est fort déplorable et malheureusement, bon, les ONG ne font que faire des va-et-vient. Jusque-là, rien de concret n'a été fait. Même si le reste, le CICR, qui a indiqué qu'il a commencé bien sûr avec la distribution de certains de vivres et non vivres au déplacé.
Merci. Avant d'aborder le thème de ce soir, nous allons émettre un petit commentaire par rapport à la journée nationale de la presse, célébrée hier 22 juillet en République démocratique du Congo. Le thème retenu pour cette année est les espoirs de la presse dans le développement de la République démocratique du Congo pour les 50 ans à venir. À cette occasion, Emmanuel, les journalistes de la République démocratique du Congo, édition 2009-2010, a été présenté à Kinshasa. Cette année, mise en place par l'Union nationale de la presse du Congo, vise à organiser les médias congolais pour lutter contre les dérapages constatés dans la presse. Un petit commentaire, Albert Omba, par rapport à cette journée nationale de la presse.
Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a rien qui a changé au niveau de la presse. On peut publier en hiver, mais si les conditions des journalistes ne sont pas réduites à la hausse ou bien analysées, je crois que on garde toujours le statu quo, mais un annuaire, c'est quand même quelque chose de bien parce que ça permet de répertorier au moins les journalistes à travers le pays, sauf qu'il y a des contestations à gauche et à droite, mais il faut quand même un document de base sur lequel on peut se référer pour avoir une idée de la profession. Et seulement, l'annuaire pouvait, parce que les éléments ont été mis pêle-mêle, selon l'ordre chronologique de peut-être l'optation de la carte, mais si on pouvait mettre ça par ordre alphabétique, ça permettrait peut-être à tout le monde qui pourra chercher les noms et retrouver facilement, et permettre aussi aux confrères qui n'ont pas encore déposé leur formulaire de les déposer pour qu'ils soient aussi repris dans cet annuaire.
Donc, du moins là, rien ne pourra changer. C'est pour ça qu'on ne va pas tenir compte des conditions de vie des journalistes. C'est votre point de vue?
Non, malheureusement, c'est mon point de vue. Et les journalistes, je pense qu'ils se plaignent trop. Au Congo, il y a plus de 90% d'organes privés qui n'ont rien à attendre de l'État. Donc là, c'est un problème d'expertise et de management des entreprises qui peuvent compétir comme toute entreprise commerciale. Nous vendons un produit qui a ses clients, qui a ses modalités de vente. Je pense qu'il faut maîtriser tous les paramètres pour rentabiliser notre commerce, parce que c'est un commerce que l'on fait. Et là, nous sommes sur le plan tout à fait commercial. Je suis certain que la presse peut s'en sortir si elle réfléchit sérieusement sur les conditions et les modalités de vente de son produit. Et ça, c'est important. On n'en parle pas souvent.
Et pourquoi on n'insiste pas souvent sur les conditions de vie des journalistes?
Mais les conditions de vie des journalistes ne peuvent changer que par son travail. Et son travail, c'est produire une information et bien la produire pour la vendre à qui la désire. Moi, je parle essentiellement de la presse écrite. Kinshasa, par exemple, regorge plus de 10 millions d'habitants. Je suis étonné de voir qu'il n'y a aucun journal à Kinshasa qui dépasse un tirage de 20 000. C'est vraiment surprenant. Alors que vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas plus de 2 000 personnes à Kinshasa qui soient capables de lire et d'acheter un journal. Il en existe. Je pense que c'est le moyen de les atteindre qui font de faux. Mais il faut réfléchir sérieusement sur la question. Le journaliste peut vivre de son métier sans mendier aux politiciens et aux autres professeurs.
Serge Sikouli, vous partagez l'optimisme de Jean-Claude Bimola?
Bon, moi je dirais peut-être autre chose. Je dis que il est vrai que de nos jours, il y a un foisonnement pratiquement des médias qui sont en train de naître par-ci et par-là. Et c'est fort dommage La plupart de ces médias ne sont même pas en ordre. Et vous mettez à la place maintenant de ensemble ces journalistes qui traitent dans ces différents médias. On a toujours des problèmes sérieux, on ne sait pas comment se faire entendre. D'abord, l'organe même n'est pas en ordre avec les structures étatiques. Et par conséquent, je crois que les structures étatiques devaient être un peu plus ou moins regardantes par rapport à la création de l'ensemble de ces médias, car ils sont pratiquement en train de créer un certain sous-emploi au lieu de créer l'emploi des journalistes comme tel. C'est-à-dire que vous allez voir pratiquement le métier qui est totalement bradé. On commence à prendre du n'importe qui pour mettre donc fin des médias, pour juste que au moins ces médias puissent plus ou moins vivre. Après, c'est le réseau de nos jours. Il faut comprendre que surtout plus dans les provinces, ce sont des députés de groupes politiques qui sont en train pratiquement de créer des médias et il faut voir maintenant quel genre de médias pratiquement seront créés par ce genre de personnes. C'est bien sûr avec des visées et des idées précises.
Merci, nous passons à notre prochaine émission de ce soir. La mise en place des nouvelles provinces au centre de concertation entre le gouverneur des provinces et le premier ministre à la primature ici à Kinshasa. Poste d'appliquer la retenue à la source de 40% et de traduire dans l'essai la décentralisation à l'heure qu'il est, le gouverneur des provinces opte pour la continuité du principe de la solidarité nationale avec les provinces démunies. C'est le compromis trouvé mercredi dernier au terme d'une séance de travail avec le premier ministre et le gouverneur. Les détails avec Jeff Ngoy.
Le premier ministre et ses hôtes ont examiné la viabilité des possibilités de nouvelles provinces pour voir si elles sont créées au stade actuel, comment elles pourront faire face aux charges qui seront les leurs, retenant entre autres certaines matières qui relèvent de la compétence des provinces, notamment l'agriculture et l'éducation. Mais en quoi consiste exactement la solidarité nationale? Le porte-parole des gouverneurs, Julien Panouk du Nord-Ki, vous explique.
Nous avons examiné avec le premier ministre et tout le gouverneur que s'il y a des coupes au stade actuel, il n'y a que 4 provinces qui vont devoir fonctionner au regard des chiffres qui ont été présentés et que naturellement d'autres provinces ont des difficultés même de s'installer. C'est ainsi que nous avons privilégié le principe de la solidarité nationale où les provinces ont une à l'unanimité convenu de devoir s'entrefinancer.
2 commissions ont été ainsi créées. Une va s'occuper de la problématique de la mise en œuvre de nouvelles provinces. Une autre va réfléchir sur des questions budgétaires. Il s'agit d'apporter quelques réajustements financiers à inclure dans le de 2011.
Ces travaux se tiennent à provision de la conférence des gouverneurs qui sera organisée à l'Équateur. Albert Rumba, ces concertations tombent à point nommé quand on se rappelle le débat suscité par cette question de la mise en place de nouvelles provinces.
Oui, ça tombe à point nommé, mais à retard parce que nous savons très bien que selon la Constitution, la décentralisation devait être applicable le 15 mai de cette année où on devait avoir 26 provinces au lieu de 11. Malheureusement, rien n'a pas été fait et jusque-là, nous reprenons tout à zéro. Et s'il y a concertation aujourd'hui, c'est pour reprendre tout à zéro dans le sens qu'il y a eu beaucoup de compréhensions entre le gouverneur, les assemblées provinciales et le gouvernement central sur d'abord les 40% des rétrocessions, sur autant de problèmes. Et aujourd'hui, s'ils se mettent d'accord, ne puissent qu'avoir une idée pour démarrer, c'est déjà un point net. Et je suis conscient que tout ce qu'on avait dit dans le passé, que c'est pratiquement difficile aujourd'hui pour que la décentralisation se fasse, parce qu'il y a des provinces qui sont très pauvres par rapport à d'autres, qui n'ont aucune ressource. Et si le relevé que nos confrères ont fait, on a vu qu'il y a des provinces qui participent à 56%, pendant que d'autres participent à 0,05%. Je prends le cas, par exemple, de Kinshasa, qui participe pour le budget à peu près à 56%, et tandis que le Bandundu à 0,05% ou le Maniema à 0,08%. Donc, c'est très insignifiant.
Il y a 4 provinces qui semblent être viables, à savoir la ville de province de Kinshasa, la province du Nord Kivu, la province du Bas-Congo, ainsi que celle du Katanga.
Oui, les 4 provinces sont viables parce qu'on sait que tout est centralisé à Kinshasa. Les taxes, Kinshasa bénéficie de toutes les taxes au niveau des grandes entreprises. Et le Katanga bénéficie aussi de la sortie de ses frontières vers la Zambie et la Tanzanie. Et le Bas-Congo avec ses entrées au niveau du port de Matadi. Et le Nord Kivu un peu avec
la douane.
La douane au niveau de Kasindi, au niveau du Chacha.
ça produit quand même vers l'Ouganda, et à retour aussi vers le Rwanda. Donc ce sont des frontières qui permettent quand même à faire un peu de recettes, et surtout au niveau de Goma, entre Gisenyi et Goma. Donc, en bref, il y a 4 sur 26 qui peuvent vivre un peu. Mais il y a aussi un autre problème qu'on n'a pas pu résoudre, c'était le problème de, en dehors de la rétrocession, qu'est-ce que les provinces devaient avoir comme charge? Si on procède à la retenue, c'est-à-dire les provinces devaient retenir à la source 40%. Et ces 40% devaient servir à quoi? Aux compétences exclusives de provinces qui étaient l'agriculture, la fonction publique provinciale, la santé et l'APSP, pas l'éducation, parce que l'enseignement supérieur universitaire, c'est dans le budget national. Et vous verrez que si on prend ne plus que ces aspects-là, je prends par exemple l'APSP, je prends la province du Bandoulou de Maniema, s'ils doivent payer ne plus que les enseignants de la province, ils ne parviendront jamais. C'est pratiquement impossible, c'est tout le budget qui sera consommé. Donc ils doivent étudier toutes ces modalités-là, arrondir les angles pour voir quand est-ce qu'on pourrait démarrer cette histoire de décentralisation.
Oui, Jean-Claude, dis-moi là, lors de ces travaux, 3 points ont été examinés, à savoir les revendications relatives à l'institution des nouvelles villes et des nouvelles communes, la problématique liée à la capacité productive de chaque province, et la problématique de la mise en place des nouvelles provinces. Et à votre avis, vous pensez que ces points à eux seuls suffisent pour expliquer ce qu'on fait qualifier aujourd'hui de blocage que l'on constate dans l'application de la décentralisation en République démocratique du Congo?
Non. Je pense qu'une concertation est une assemblée consultative, simplement. Elle n'a aucun pouvoir délibératif. Et je me demande bien si on n'a pas respecté la Constitution, comment on peut respecter les résolutions d'une assemblée consultative. Je pense qu'on doit repartir là, dans la Constitution. Le constat est que, depuis longtemps, le pays vit dans une sorte d'inconstitutionnalité, et du fait du non-départ vers la décentralisation. C'est ça le fait. On doit revenir à la Constitution. Le gouvernement, je pense, a peur de lâcher des leviers de beaucoup de pouvoirs qui lui sont encore utiles pour l'instant. Et ça, c'est là le vrai problème du terme. Mais la décentralisation en soi, c'est le peuple qui doit poser la question au gouvernement. Pourquoi nous n'en sommes pas là? Qu'est-ce que vous avez fait que vous auriez dû faire? C'est la question à laquelle le gouvernement devait répondre. Parce qu'on sait, tous les mécanismes sont prévus par la Constitution, par la loi.
Oui, Serge Sikouli, lors de ces travaux, il y a des contraintes qui ont été relevées, notamment les contraintes financières, les contraintes juridiques, les contraintes matérielles. Et vous pensez qu'avec toutes ces contraintes, on peut facilement appliquer la décentralisation dans ce pays?
Je vous dis que ceux qui ont élaboré notre constitution ne se sont pas d'abord rendus sur le terrain pour voir ce qui est bien sûr de l'effectivité des moyens financiers de l'ensemble, donc ce qui peut aller autour peut-être de la décentralisation. Je me dis, lorsqu'on prend par exemple le cas du découpage des différentes provinces, lorsqu'il y avait bien sûr le débat qui avait été sur au renouvellement de la constitution sur ce fameux découpage, il fallait des milliards de dollars qu'il fallait mettre en œuvre afin de pouvoir bien sûr mettre effectivement cette décentralisation, ce découpage des provinces sur les îles. Alors je me dis que avec l'ensemble de ces contraintes, nous avons fort à faire. Et il y a peut-être à penser que jamais il n'y aura de découpage. Si on pense à ces 4 matins que tout va donc apparaître comme sous l'effet d'un coup de baguette magique. Alors je me dis que lorsqu'il y a des contraintes déjà financières, il fallait d'abord interroger comment, alors il faut d'abord essayer de contourner cet aspect financier afin de pouvoir peut-être produire quelque chose de mieux et ne pas aller directement, tel que nous le dit la Constitution pour les 26 provinces, qui allait graduellement, tel que cela avait été fait d'abord dans un premier temps pour la province de l'Ancien Kivu, où il y a déjà le nord, le sud, le nord Kivu, le sud Kivu, ainsi que la province de Maniema. Alors je me dis que nos gouverneurs, apparemment, lorsqu'ils vont dans ce genre de rencontres, on n'analyse pas assez bien les questions de fond, comme d'ailleurs l'a dit le porte-parole du gouverneur Julien Palomino-Condé. on n'analyse pas assez les questions de fond, qui ont trait bien sûr à l'effectivité donc de certaines idées qu'on a pu mettre sur pied. Alors, je me dis que nos gouverneurs ont encore fort à faire par rapport bien sûr à l'ensemble des découpages et il y a des forts doutes que ça ne soit pas vraiment pour demain, même si on parlait de 6 à 3 ans, 36 mois après bien sûr à l'entrée donc des nouvelles institutions.
Alors en bas, Serge Sikouli a évoqué l'ancien Kivu, hein, qui a été scindé en trois provinces, le nord, le sud et la province du Maniema. Et nous savons qu'à l'époque, on n'a pas tenu compte de toutes ces conditions qui sont évoquées aujourd'hui pour scinder cette province en trois provinces. Pourquoi cette expérience ne peut pas être tentée aujourd'hui?
Normalement, c'est une des pistes que le gouvernement pouvait utiliser. Parce qu'on tenu des contraintes qu'il est en train de dire, contraintes
juridiques.
D'abord, je dis que non, parce que l'Assemblée nationale et le Sénat avaient tout le temps pour produire des textes juridiques. Contraintes financières, non, parce que on connaît déjà qui produit quoi et au niveau. Donc, il n'y a aucune contrainte matérielle peut-être, mais le gouvernement avait le temps de construire une fiche de bâtiments pour chaque province. Si on avait construit ne plus qu'un bureau ou chef de chaque province, ça, on serait déjà avancé. Alors, pour revenir à la question, on pouvait aussi prendre la méthode qu'on a utilisée en 86, la méthode de test, où on a utilisé au Kivu. On pouvait l'utiliser, par exemple, aujourd'hui au Katanga. Deux ou trois provinces, on pouvait prendre, par exemple, le Katanga, on pouvait prendre une autre province, parce que le Nord Kivu n'est pas concerné pour le découpage, le Bas-Congo n'est pas concerné pour le découpage, la ville de Kinshasa n'est pas concernée aussi pour le découpage. Donc, vous voyez que le problème reste en entier. Il n'y a que le Katanga qui est concerné, et qui est parmi les quatre provinces viables. Donc, si on descend maintenant vers les provinces qui ne sont pas viables, ça prendra combien de temps? On pouvait choisir, il y a des provinces quand même, des districts, de certaines provinces qui peuvent servir de test. Et on peut prendre deux ou trois provinces pour deux ans et on attend petit à petit, on peut arriver en attendant, on construit des bâtiments, on met des infrastructures avec peut-être les cinq chantiers. On pourrait dans deux ou trois ans avoir quand même un équilibre et avancer. Parce que si on doit dire il faut l'argent, on n'en aura pas aujourd'hui.
Et donc, dis-moi là, comme on le propose Albert Romba, on peut y aller de façon progressive, comme on l'avait proposé à l'époque le ministre d'État Denis Kaloumé, qui avait présenté les raisons pour évoquer la notion de progressivité de la mise en œuvre des 26 provinces. Hein. Il avait notamment évoqué la question des financements de cette décentralisation. Et vous pensez qu'il faut donc revenir à ce que le général Denis Kaloumé avait proposé, y aller de façon progressive?
Oui, je pense que tout le monde sera dit à l'évidence que la décentralisation totale n'est pas possible au jour d'aujourd'hui. Il faut une décentralisation progressive. Mais là où le gouvernement a touché, ce qu'on n'a pas eu le temps d'apprendre, on aurait dû pendant ce moment avoir le fisc de province pilote. Une décentralisation pilote où on expérimentait, où devait se regrouper tous les cadres de l'État. Ces provinces-là devaient être les carrefours de tous les administratifs de l'État qui seront formés pour les prochaines provinces à décentraliser. Mais il n'y a rien eu, rien du tout, ni sur le plan légal, ni sur le plan de l'exercice.
Et vous attendez cela quoi?
Mais je pense qu'il y a une volonté. Il y a une volonté qui a manqué et qui manque.
Jean-Claude Dumont parle de manque de volonté. Et pourtant, nous savons qu'il y a des lois qui sont prioritaires pour la mise en place de cette décentralisation. C'est comme la loi sur les finances, la loi sur la subdivision du territoire national, la loi sur la nomenclature des taxes, la loi sur l'administration publique des entités décentralisées, la loi portant sur la petite administration. Mais toutes ces lois n'ont jamais été adoptées. Vous ne pensez pas que les responsabilités sont partagées?
Bon, je me dis d'une part que l'important peut-être, peut-être, je ne sais pas si c'est le Parlement, je ne dis pas le dire, l'affirmer directement, que ce soit notamment sur le gouvernement, il y a certains qui se plaisent à ce que la situation ou en plus rester dans le statu quo. Lorsqu'on me dit qu'il y a des grandes lois qu'il fallait bien sûr débattre, mais on commence peut-être par ce qui n'est pas peut-être plus important et parfois finir par ce qui est plus important. Alors, je me dis qu'il y a donc à un certain niveau, à ce qui passe le pouvoir, je ne peux pas le dire, qu'il y a des gens qui préfèrent qu'on puisse rester dans le statu quo, et qu'il n'y a rien qui va changer. Donc par rapport à tous ces aspects-là qui doivent être en principe prioritaires pour notre nation, la Constitution. En principe, elle devait être scrupuleusement respectée. Mais bon, jusque-là, on continue à traîner et à traîner toujours. La population attend. On sait jusqu'à quand attendre. Alors, je me dis qu'il y a encore des sérieux problèmes dans le chef de nos élus, qu'ils soient bien sûr nationaux ou provinciaux, mais également à ceux qui sont peut-être plus haut percés, ceux qui sont au gouvernement. Il y a encore du chemin à faire par rapport, bien sûr, à la prise de conscience par rapport à notre nation, à la Constitution qui doit être scrupuleusement acceptée.
Oui, merci. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. La situation sécuritaire et humanitaire reste préoccupante au nord Kivu après le lancement des opérations Rwenzori contre les rebelles ougandais de l'ADF Nalu dans les territoires de Beni. Plus de 800 ménages de déplacés de guerre sont arrivés en Mbau depuis le week-end dernier. La situation humanitaire est déplorable, déclare la société civile qui lance un appel à l'aide urgente. Rappelons que ces déplacés fuient des affrontements qui opposent les FARDC aux rebelles ougandais des ADF Nalu dans les territoires de Beni. Les détails avec Étienne Mouindo.
811 ménages de déplacés, soit plus de 4800 personnes recensées lundi par la Croix-Rouge de Mbau, déclare Pasteur Comé, président de la société civile du secteur de Benimbaou. Il précise que ces déplacés sont essentiellement des femmes, des enfants et des vieillards. Ils viennent des localités environnantes de Mamoundioma, Totorito, Kazaroro, Eringeti, Enem de Mutuanga, dans le secteur voisin de Rouenzori. Les déplacés arrivent par petits groupes et sont démunis de tout, permet-il avant d'ajouter qu'ils ont besoin de vivres, des vêtements, des couvertures, des casseroles, des médicaments et des bâches. Pour le moment, ils passent la nuit dans les écoles, les églises, voire à la belle étoile, poursuit-il. De son côté, le président de la société civile du territoire de Beni, Omar Kavota, indique que le nombre de déplacés augmente du jour au jour. La cité d'Oïcha héberge actuellement près de 70 000 déplacés de guerre. L'aide promise par les humanitaires tarde à venir, note le président de la société civile de Beni. Boutembo et Kemino, Radio Okapi.
De nombreuses arrestations ont été opérées mercredi dernier au sein de la population civile de Beni Territoire et de Beni Ville par les services de sécurité. Il s'agit pour la plupart des trafiquants de bois scié. D'après des témoignages sur place, ces personnes sont accusées de collaborer avec les rebelles ougandais de l'ADF Nalu. Albert Romba, à quoi peut-on attribuer cette persistance de l'insécurité au nord Kivu? C'est vrai que l'on parle des opérations contre les FDLR, contre les ADF Nalu, mais vous pensez que cela suffit pour expliquer cette persistance de l'insécurité, en fait, qui est devenue quasi permanente?
Non, nous avons dit le problème de l'occupation, parce que ces rebelles sont là depuis des années. Et ils font les tours, ils descendent vers la Rwenzori, ils vont vers le nord, le Bunia, et ainsi de suite. Ils font toujours les tours. Et il fallait une situation d'occupation exacte du terrain, c'est-à-dire les FARDC, qui ont la charge de sécuriser le territoire, devaient occuper les hommes qui sont allés directement, après la résistance de tous ces rebelles, sont allés directement conquérir le terrain, mais il faut aussi conquérir et savoir aussi gérer les populations qui se déplacent s'il y a des arrestations de trafiquants du bois. Le bois, est-ce que ça vient de Rwenzori ou plutôt de l'autre côté de l'ouest, de Mangina par exemple, vous voyez? Je ne crois pas qu'un trafiquant de bois va collaborer avec les... Au contraire, ce sont des victimes des rebelles de Kony. Donc, ce n'est pas une solution pour traquer les populations. Ce qu'il faut, quand l'armée va aider le Rwenzori s'occuper de chasser les rebelles, faire ce travail et protéger aussi la population de façon qu'il soit sécurisé. Il y a maintenant un afflux important de population qui a quitté la zone de Mutuanga et vers Oika et Mbau. Vous voyez que ça pose de sérieux problèmes et heureusement que les humanitaires ont prévu au courant de la semaine, si j'ai bonne mémoire, une réponse rapide au mouvement de ces populations. Mais il faut d'abord coordonner cette réponse, c'est-à-dire il faut d'abord trouver de l'argent, trouver les donateurs. Et il faut aussi centraliser l'aide, localiser l'aide, et puis trouver le moyen de déplacement pour l'acheminer sur le terrain. Malheureusement, la population en mouvement augmente du jour au jour, ce qui est un peu
du Cameroun. On a vu qu'il y a par exemple le CICR qui est sur place, qui agit, et la Croix-Rouge du Congo aussi, et il y a Oxfam. Il y a quand même quelques ONG qui sont sur place, mais la demande augmente du jour au jour compte tenu du mouvement de cette population.
Jean-Claude Dimola, depuis toujours, c'est l'approche militaire qui est privilégiée. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, si on essaie d'appliquer l'approche politique, on peut tant soit peu solutionner ce problème?
Mais quand on gère un État, surtout dans le contexte qui est celui du Congo, il y a toutes les approches qu'il faut tenter. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la gestion du conflit, on finit par choisir l'approche qui vaut la mieux. Mais je pense que dans cette situation, c'est un petit peu super. Nous sommes victimes de la faillite de notre système de sécurité, une faillite qui a duré de longues années.
Il faut rappeler que les FADC sont en cours de réforme. On a fait de réformer l'armée congolaise.
Oui, il est en train de se réformer, mais il se bat comme toute armée qui a des objectifs précis. Mais on ne peut pas beaucoup attendre. Beaucoup attendre, c'est trop dire, mais je pense qu'il faut alterner. Il faut alterner toutes les approches. Et je pense qu'en ce moment où nos forces se battent sur les théâtres des opérations, il y a, je pense, des diplomates qui sont en train de prendre langue pour faire l'économie du sang, hein, parce que cette population a beaucoup souffert.
Serge Sikouli, ça fait plus de 20 ans que les ADF Nalou vivent dans cette partie du pays. Et à votre avis, pourquoi le gouvernement choisit ces moments pour les déléguer?
Là, ce n'est pas la première opération qui est menée contre les ADF Nalou. Il y a, vers la fin des années 80, une opération qui a été appelée apparemment l'opération Mbiri, si j'ai une bonne souvenance, où on devait traquer toujours ces ADF Nalou. Ils venaient pratiquement de faire 3 ou 4 ans, alors qu'ils venaient de s'installer dans le Morenzori. Et encore, bien d'autres opérations qui étaient menées à ce propos, mais aucune de ces opérations, malheureusement, n'a jamais abouti, n'a jamais donné des résultats palpables, concluants, afin peut-être de pouvoir dire que non, voici à quoi servit cette opération. Et malheureusement, notre gouvernement ne songe jamais aux effets collatéraux que, bien sûr, provoque l'ensemble de ces opérations. Prenons le cas, par exemple, de ces opérations réseaux qui sont menées actuellement. Il faut se poser, bien sûr, comment on a pu aménager un plan de guerre, ainsi de sans penser aucunement à des effets collatéraux. Le ministère, en fait, qui a en charge des affaires humanitaires, les gens peut-être aussi dire non, voici ce qui est prévu en ce sens-là. Parce qu'il y a des déplacements, par exemple, de la population, il faudra faire ceci et cela. Mais en tout et pour tout, on est privilégié pratiquement sur les armes. Et comme si c'était un endroit qui était pratiquement inhabitable, où on ne va faire que tirer sur l'ennemi. Et il n'y a rien d'autre qui sera fait. Les représailles contre toutes ces personnes-là qui sont arrêtées. Quand je dis que ce ne sont que des boucs émissaires, pratiquement. On vous mettez à la place, par exemple, de toute la population qui vit autour du Morenzori. Les ADF Nalou arrivent, ils s'imposent face, bien sûr, à cette population. Et la population, malheureusement, elle est obligée de vivre continuellement avec les ADF Nalou. À part eux, ils ont les armes. Là, on ne peut pas, bien sûr, dire non à quelqu'un qui a l'arme, à moins peut-être de vouloir perdre sa vie en ce sens-là. Et lorsque l'armée vient essayer de reconquérir donc cette partie qui a été occupée à un bout de temps par les ADF Nalou, on commence à indiquer celui-ci. Et là, on a travaillé avec les Nalou. C'était sous forme de contrat. Alors, je crois que notre gouvernement, qui parle de la structure à partir qui a fait des épargnes, devait être un peu plus prévoyante et dire non, qu'est-ce qu'on va faire précisément. Bien vrai, on ne manque jamais des effets dans toute guerre qui est menée. Mais il faut privilégier surtout l'aspect de la population. Il ne faut pas, bien sûr, martyriser directement la population. Dire que non, on va prendre des boucs émissaires à gauche et à droite.
Ça, c'est cool, vous qui êtes sur place. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour que la population civile soit protégée efficacement?
Pour que la population soit protégée efficacement, je crois qu'il faut déjà aménager plus ou moins une sorte de plan de sortie pour ce qui est de cette population. Elle est la première victime.
Et dans ce cadre-là, il ne faut pas seulement qu'on puisse venir et enregistrer pratiquement ces déplacés. Nous disons que pour une question vraiment capitale pour l'ensemble de la République, que ce déplacement ne puisse pas disparaître une fois pour toutes. Mais il faut aussi, un peu immédiatement, on va recevoir par exemple une déplacée de quelqu'un. Il faudra leur fournir ceci et cela. Et ainsi de suite. Je crois que donc, il faut être pratique par rapport, bien sûr, à l'aspect humanitaire. L'ensemble de ces populations qui sont en train de vider pratiquement leur village, qui laissent leur décompte et pratiquement ils sont obligés d'aller s'enfermer auprès d'autres familles comme déplacés. Là, c'est franchement plus ou moins inacceptable et injuste pour un gouvernement qui se dit assez responsable.
Merci. Albert Mba, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour une protection efficace des civils?
Oui, une protection efficace, ça veut dire augmenter l'effectif de l'armée parce que la zone est trop vaste et un peu difficilement accessible. Le Rwenzori est très vaste. Alors, le fonds armées devait d'abord prendre certaines précautions pour localiser les endroits où les populations habitent, les protéger et puis mener les opérations militaires de façon que, pendant que les opérations sont menées, il y a un groupe de militaires qui protège les populations dans leur site pour ne pas les permettre de se déplacer et manquer peut-être de se donner à leurs activités sans compte.
Jean-Claude Dimola, un mot sur la protection des civils?
Oui, ça fait partie du plan de guerre. On ne peut pas faire la guerre sans tenir compte de la population civile. Et comme c'est ça, notre armée qui est en train de se restructurer, c'est des aspects de ce dont on n'a pas tenu compte dans l'élaboration du plan de guerre.
Merci. Nous passons à notre dernier thème ce soir. Le haut commissaire du HCR, Antonio Guterres, séjourne en République démocratique du Congo depuis mercredi dernier. Attirer l'attention sur la situation tragique des personnes déplacées en République démocratique du Congo et sur la nécessité d'assurer qu'une aide humanitaire leur parvienne, c'est l'objectif poursuivi par le patron du HCR, Antonio Guterres, en visite de 3 jours en République démocratique du Congo, où des conflits armés ont provoqué des déplacements internes de plus d'un million de personnes, selon le HCR. Arrivé mercredi à Kinshasa, le numéro 1 du HCR s'est rendu à l'Équateur. Écoutons Antonio Guterres au micro de Paul Richard Malingela.
À la fin de notre visite en Équateur, je voudrais vous annoncer que le HCR va rétablir une présence permanente immédiatement à Mbandaka et à Dongo, avec 2 objectifs essentiels. Le premier, préparation des conditions pour un retour volontaire et en dignité et sécurité des réfugiés qui sont en République du Congo et en République centrafricaine. Le deuxième, naturellement, notre intégration dans le système onusien pour un meilleur appui aux personnes déplacées à l'intérieur de leur décès et personne ne peut jamais remplacer l'engagement des gouvernements, des autorités nationales, mais aussi avec l'appui de la MONUSCO et des autres acteurs humanitaires. Nous espérons que les conditions de sécurité, de réconciliation, de réintégration dans la société puissent être créées pour que ce retour volontaire puisse se développer de la meilleure façon dans les mois à venir.
Albert Mba, je rappelle que vous êtes journaliste à Kofikana FM, c'est une radio qui est née depuis Kinshasa. Comment vous réagissez à cette visite de M. Antonio Guterres en République démocratique du Congo?
Non, la visite de M. Antonio est tombée au bon moment où il y avait des difficultés, surtout pour les populations de Dongo, où les humanitaires n'avaient pas jusque-là accepté de mettre un plan de réponse rapide au mouvement de population, un plan qui pouvait aider cette population à subvenir aux difficultés auxquelles elle sont contrainte aujourd'hui. Et je me suis réjoui d'attendre M. Antonio dire qu'il va s'occuper essentiellement du cas de Dongo, parce que Dongo était mis à l'écart par rapport à l'Est, qui constituait au moins la priorité des humanitaires. Et aussi, M. Antonio a souligné le fait que ce soit les humanitaires ou tout ce qui est comme organe des Nations Unies, ils ne peuvent pas remplacer le gouvernement. C'est le gouvernement congolais. Parce que le problème, par exemple, pourquoi il y a ces déplacés? Le gouvernement doit avoir une politique pour éviter qu'il y ait tous ces déplacements-là. Et quand il y a déplacement, il faut que le gouvernement soit le premier acteur à prendre en charge les populations déplacées là où ils sont et ceux qui sont retournés encore là où ils devraient être. Donc, la première tâche revient au gouvernement. Je parle du cas de Dongo, où plus de la moitié est à l'étranger.
Au Congo-Brazzaville,
voilà.
il faut que les conditions de retour soient viables. C'est-à-dire que le gouvernement doit sécuriser Dongo et ses environs de façon que les échos que les autres réfugiés ont à Braza ou à Bangui, ça va leur permettre de revenir sur place. Et s'ils reviennent, c'est ça la sécurité, c'est-à-dire quand ils reviennent, ils vont se donner à leurs travaux habituels et la vie va commencer à Dongo. Mais s'il n'y a pas de conditions de sécurité, les gens ne vont pas revenir et ça crée toujours des problèmes de charges à gauche, à droite. On doit envoyer de l'aide au Congo-Brazza, au Centrafrique et puis à RDC. Vous voyez que ça pose un problème sérieux. Donc la sécurisation, ça revient toujours une charge importante pour le gouvernement congolais.
Oui, Jean-Claude Dimoila, je rappelle que vous êtes journaliste au journal Climat Tempéré, c'est un titre hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Selon M. Antonio Guterres, l'IACR va être permanent en Mbandaka et à Dongo pour mettre en place les conditions au retour volontaire des réfugiés qui sont au Congo en République centrafricaine. Mais on va aussi évoquer le fait que le gouvernement doit faire son travail, c'est celui de créer des conditions susceptibles de permettre à ces populations de revenir volontairement dans leur pays. Votre analyse ?
Exactement, c'est au gouvernement que revient la plus grande tâche. Et la plus grande tâche, le gouvernement aurait dû la faire lorsque le problème de Zénélé était encore en gestation. Parce que lorsqu'on n'a pas le moyen de gestion humanitaire, je pense que le mieux qu'on peut faire, c'est la prévention. Et ces conflits ont commencé il y a très bien longtemps, mais le gouvernement n'a pas fourni assez d'efforts de prévention. Maintenant, nous sommes dans la catastrophe, et c'est la gestion des urgences. Et quand on gère les urgences, ce n'est pas tous les aspects qui sont pris en compte.
Je me rappelle qu'à un moment donné, le gouvernement avait créé des campagnes de vulgarisation qui avaient comme objectif de convaincre les réfugiés qui se trouvaient au Congo-Brazzaville de pouvoir revenir au pays. Mais apparemment, ces campagnes n'ont pas abouti au résultat escompté.
Mais la situation de terrain n'était pas rassurante. Pour preuve, le gouvernement avait annoncé l'arrestation, c'est réduit à plusieurs reprises, et tous ces aspects-là ne pouvaient pas sécuriser, ne pouvaient pas rassurer les éventuels revenants. Et c'est seulement maintenant que les choses commencent un tout petit peu à se stabiliser qu'on peut penser qu'il y aura un retour progressif à la normale.
Serge Sikouli, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Moto de Bitembo Nord Kivu. Le Nord Kivu, c'est une province concernée par ce problème des réfugiés. Comment vous analysez la visite de M. Antonio Guterres au Congo?
Je me dis que la venue d'Antonio Guterres comme commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, cette visite tombe parfois nommée, s'il faut le dire. Mais il faut bien sûr que cette visite puisse produire des effets. Si une visite, on peut visiter la paix, il n'y a rien dans la suite. Je crois que cela ne vaut pas la peine d'être appelé une visite. On sera recevoir et après, il n'y a plus rien. Et je me dis que les SR devaient également essayer de voir comment pérenniser une action. Lorsqu'on a entamé peut-être des actions d'urgence, ça ne peut pas manquer, parce qu'il y a des cas, bien sûr, où il faut faire quelque chose. Mais dans la plupart des cas, il faut essayer de changer à ce qui est plus durable. Il y a des cas, par exemple, pour certaines déplacés qu'on a pu rencontrer dans le sud, par exemple, du territoire de l'Ubero, où les éléments stellaires se sont réduits pendant assez longtemps. Je vous dis, dans la plupart des cas, les déplacés vous disent une chose. Il est vrai, nous avons besoin de quelque chose à manger maintenant, mais alors demain, est-ce qu'on va toujours pouvoir faire quelque chose à manger? Ce dont nous avons besoin, c'est de tout la paix, soit si peut-être on peut nous garantir tant soit peu donc, à la sécurité, il n'y aura rien donc à craindre par rapport à notre survie au quotidien. Même malheureusement, dans la plupart des cas, on vient, ce sont des actions spontanées, après l'action, il n'y a rien de spécial qui est fait dans la suite. Et là, c'est que la population est aussi délaissée par rapport à la situation qu'elle est en train de mener contre.
Merci, c'est la fin de cette émission. Jean-Claude Nsiala était à la technique, Kélin Koupé à la réalisation, assisté de Samuel Kakiat, sous la supervision de Télé-Équipe La Mondo. Guy Mathieu vous a présenté cette émission. Merci et bon week-end sur Radio Capi.
Thank you.